Weird.
Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Heureuse de vous retrouver aujourd'hui et malheureusement, on se retrouve dans un climat de tension aujourd'hui à Montréal ou dans le campement de l'Université McGill, le campement pro-palestinien. Il y a en même temps une contre-manifestation pour soutenir Israël, en soutien à Israël. Donc le climat est très tendu à quelques mètres les uns des autres. Les manifestants finalement se lancent des slogans puis se regardent dans les yeux, puis ça y est, en se regardant des yeux, puis je me dis, coudonc, qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Ces deux gangs-là devraient être ensemble. Ces deux gangs-là sont endeuillés. Ces deux gangs-là ont vécu, et pour certains continuent de vivre, l'injustice, la barbarie et la cruauté humaine. S'il y a deux peuples là qui sont en deuil, qui connaissent la douleur de l'autre, c'est bien ces deux gangs-là qui se regardent dans le blanc des yeux puis qui s'haïssent. Ben voyons donc. D'un côté, on a la communauté juive, la communauté pro-Israël qui a connu le massacre du 7 octobre, et de l'autre côté, on a les pro-palestiniens qui continuent de vivre depuis plusieurs mois la catastrophe humaine, humanitaire, sanitaire, et juste de dignité humaine, là, qui a lieu actuellement à Gaza. Y a-t-il quelqu'un qui peut leur dire qu'ils ont plus en commun qu'ils ont de différence? Y a-t-il quelqu'un qui peut leur dire que Netanyahou et le Hamas ont réussi à les diviser alors qu'ils ont plus de choses en commun que de choses qui les séparent? Y a-t-il quelqu'un qui peut leur dire que s'ils unissaient leur voix, la paix serait peut-être instauré pour les deux peuples qu'ils représentent? Est-ce que quelqu'un peut leur rappeler ça? Parce que ça me semble être une évidence, mais on dirait que c'est pas quelque chose à laquelle ils ont pensé lorsqu'ils se sont présentés avec leur drapeau. Y a-t-il quelqu'un qui peut se présenter là avec les deux drapeaux, un dans chaque main? J'en ai marre de ces divisions-là. J'en peux plus de ces divisions-là, de cette haine qui vient jusqu'ici s'installer. Parle d'êtres humains, de part et d'autre. Puis la mort de l'un ne justifie pas la mort de l'autre. Le carnage de l'un ne justifie pas le carnage de l'autre. La barbarie de l'un ne justifie pas la barbarie des autres. Moi, j'aurais voulu les voir, les deux, dénoncer le Hamas et Netanyahou, puis dire « pas en notre nom ». Palestiniens comme Israéliens. Bienvenue à Cube et bienvenue à votre nouvel épisode.
Vous avez vu un grand spectacle. On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdel-Fadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel.
Luc, la fumée blanche a été perçue quelque part sur Québec solidaire puis leur bureau à l'Assemblée nationale. On a une nouvelle co-porte-parole féminine. Elle s'appelle Christine Labrie.
Voilà. Par intérim.
Par intérim.
Et j'ai donc compris qu'elle ne se présenterait pas, ce sont ses paroles.
C'est ça. Elle s'est engagée à ne pas se présenter lors de la course.
Elle fait vraiment l'intérim et c'est tout. Mais c'est un intérim particulier parce que la sortie de Gabriel Nadeau-Dubois fait branler les colonnes du temple. C'est clair que c'est quelque chose d'assez fondamental pour ce parti-là qui vient de se passer. L'as-tu écouté hier?
Ben oui. Je l'ai trouvé pas pire, moi.
Ben, je l'ai trouvé extraordinairement c'est ça? Bon. Honnêtement, là, je parle pas du... Non, tu sais, bon, telle affaire. Je dis, premièrement, courage. Ça prenait un énorme courage.
Absolument.
Deuxièmement, une maîtrise de soi assez exceptionnelle. Se retrouver dans un point de presse vaguement improvisé et de tenir la ligne, comme on dit, et de déterminer son parcours, qu'est-ce qu'il va le baliser, où est-ce qu'il s'en va. J'ai trouvé ça impressionnant comme performance d'un politicien, plus impressionnant que ce qu'on voit généralement. Ça m'a confirmé que ce gars-là que j'ai vu lors de la révolte étudiante de 2012, ça paraissait déjà que c'était un communicateur incroyable.
Ouais. C'était un communicateur né, là.
Un communicateur né, mais aussi quelqu'un d'une grande intelligence.
Ah oui. Largement.
Et bon...
C'est le plus talentueux de sa génération.
J'ai tendance à dire ça aussi. Maintenant, là où je me pose des questions, puis je suis heureux de t'entendre dire ce que tu as dit, mais c'est que moi, je me pose des questions, je me dis peut-être que c'est une affaire générationnelle, peut-être que moi, je le trouve très bon avec des critères du passé, mais je pense qu'il est très bon, point.
On n'est pas de la même génération, puis je te le dis, moi, je le vois aller depuis quelques années, puis je le trouve un des politiciens les plus brillants de sa génération. Pas parce que je partage ses opinions politiques,
moi non plus,
mais la manière avec laquelle il les amène, la manière avec laquelle il s'exprime, la passion que l'on voit dans ses yeux, dans son expression, en fait quelqu'un de brillant. Un avenir assez brillant, là, quant à moi.
Mais ce qu'il a mis sur la table hier, comme la liste des changements qui doivent être apportés...
Ouais.
Le premier de ces changements étant, nous allons cesser d'être un parti de marginaux parce qu'on accède, on veut aller au pouvoir nous aussi. On veut offrir à la population un programme de gouvernement. Et pour y parvenir, il va falloir nettoyer notre programme. Il n'est pas allé dans les détails, mais on se doute un peu. D'abord, le programme n'a jamais cessé de grandir. Il a commencé en 2006, ce programme-là. Ils n'ont jamais rien enlevé. Alors, c'est rendu une brique incroyable avec des propositions, ma foi, pas toutes, mais plusieurs sont carrément loufoques.
Complètement farfelues.
Complètement. Et je regardais aller lors de la dernière campagne électorale, Nadeau-Dubois, où je ne le sentais pas à l'aise de défendre ces bébelles-là et d'arriver puis de dire les ultra-riches, les gens qui valent un million ou plus par année. N'importe qui a une maison depuis 30 ans vaut un million, à peu près, tu sais, avec le fonds de pension. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce détail-là, mais le fait est qu'il vient de lancer un ultimatum, ce ne sont pas ses mots, ce sont les miens. Et pour dire à Québec solidaire, écoutez, moi, je maintiens mon engagement auprès du parti, mais il faut que ça change. Puis si ça ne change pas, puis là, le « si », il n'y a pas de réponse.
Ben, c'est qu'il...
Mais je vais te le dire, c'est quoi la réponse?
Il va partir.
Il va s'en aller au PQ.
Tu penses?
Ben oui, parce que chez Québec solidaire, y a un groupe qui sont très pro-indépendance du Québec. Nadeau-Dubois fait partie de ceux-là. Okay? Par exemple, pas Clich-Rivard, pas d'autres, mais lui, oui, il fait partie de ça. Pour le Parti québécois, ce serait... un coup de génie, chance incroyable.
Oui, je veux bien, mais dans le plancher des vaches, un Paul Saint-Pierre Plamondon voudrait-il avoir un Gabriel Nadeau-Dubois qui pourrait, lui, voler son thunder?
La réponse, c'est où ça va certainement lui effleurer l'esprit, mais en politique, parfois, là, quand tu t'en vas vraiment pour la victoire, et c'est de ça qu'il parle, ça te prend des gens d'un immense talent. Je veux dire, c'est pas suffisant de dire... Ah, le premier ministre va être bon, mais les autres, c'est moins bon. Ça prend une équipe complète de gens qui ont du talent, comme autrefois le PQ nous a offert des gouvernements où il y avait plein de gens talentueux, celui d'André Lévesque, certainement. Et là, je vois pas où est-ce qu'il peut aboutir ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs.
T'es-tu en train de me dire que Paul Saint-Pierre Plamondon, ce serait le Parizeau, puis Gabriel Nadeau-Dubois, Lucien Bouchard? Oui, il lui céderait la place.
Ça demande réflexion. Non, il lui cédera pas la place. C'est pas ça la question. Non, Saint-Pierre Plamondon est le plus populaire. Mais Nadeau-Dubois...
est le plus charismatique.
Oui, mais il monte pas non plus. Il a lui-même utilisé l'expression plafonnement. Il y a un plafonnement. Pourquoi y a-t-il un plafonnement? Parce que l'aspect loufoque de leur programme et de leur déclaration et aussi leur enracinement... extrêmement urbain. C'est un parti d'une ville comme Montréal. C'est pas
un parti d'une ville avec un métro.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de danger de les voir percer dans des régions. C'est arrivé, là, entre autres, Émilie Lessard-Terrien ou Terrien-Lessard.
Lessard-Terrien.
Elle venait de l'Abitibi-Témiscamingue. Bon, Christine Labrie, est-ce qu'on trouve que Sherbrooke, c'est une région où on est pas mal proche de Montréal, là, puis on est pas mal dans une ville unique, parce que c'est une ville qui vit essentiellement sur l'université. Alors moi, je pense que surveillez-le, il va bien calculer ses coûts, va se rendre jusqu'au bout, puis quand il va arriver au bout, qui est très prévisible, c'est-à-dire le bout, ses affaires vont être rejetées. Là. C'est pas vrai, il veut, entre autres, enlever toutes les espèces de comités d'encadrement.
Les politburos, là.
Ouais, les politburos, puis le comité central, et le reste. Ils s'enlèveront pas du chemin. Et il va y avoir, à l'intérieur du caucus, un débat extrêmement animé. Et hors du caucus, c'est-à-dire dans la base militante, extrêmement... anti-mesures proposées par M. Nadeau-Dubois. Mais aussi, ce que Nadeau-Dubois a démontré hier, c'est que, et moi, c'est ce que j'ai appris en politique, en bout de ligne, dans les démocraties, si tu veux arriver jusqu'au bout, il faut que tu acceptes d'avoir des gens très, très forts autour de toi, mais il faut aussi que tu fasses preuve de réel leadership. Je pense que le leadership en politique est fondamental.
Oui.
Les gouvernements dont on parle du gouvernement de Lesage, du gouvernement de Bourassa, ce sont des gens qui... Des gens qui ont le leadership dans leur...
Dans leur ADN.
Et c'est le cas de Nadeau-Dubois. Tu vois, hier, là, on pourrait prendre un angle différent puis dire... Quel petit baveux, qu'est-ce qu'il prend, il se prend pour qui, lui, puis d'essayer de dicter ses conditions. Non, il a dit, écoute, je suis présentement un des co-porte-parole, puis effectivement, c'est lui le leader, et puis il faut que ça change, ça prend un leader, j'écoutais notre ami...
Il y a trop d'indiens, pas de chef.
Ouais, j'écoutais notre ami Amir Kadir hier, oh non, c'est pas important tant que ça, ta-ta-ta-ta. Non, c'est très important, c'est même fondamental. Et si Québec solidaire choisit de ne pas le suivre, il va contribuer à une victoire du Parti québécois.
Moi, je pense que GND est le dernier espoir de Québec solidaire d'agrandir la tente solidaire, d'aller chercher un électorat qui n'est pas nécessairement un électorat à gauche. Tu sais, il y a du monde qui respecte Gabriel Nadeau-Dubois, puis ils sentent que s'il avait les coups des franches, il pourrait avoir quelque chose qui a de l'allure. Peut-être pas ce que la majorité cherche réellement, mais quelque chose qui a de l'allure.
Oui, oui, tout à fait. Et parce qu'il a ce talent, c'est un talent inné, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tous, et... Saint-Pierre Plamondon va rester bien tranquille dans son coin, se mêlera de rien, mais quand ça va cogner à la porte, ouais. Ça va être Nadeau-Dubois, il dira jamais non à une affaire comme celle-là. Ça va le propulser. T'sais, autrefois, c'était René Lévesque avec Jacques Parizeau. Eh ben, on pouvait en nommer une série de vedettes comme ça. Là c'est comme une des plus grandes vedettes de la politique québécoise, un des meilleurs communicateurs. S'en aller au PQ, ça pourrait faire des remous.
L'histoire nous le dira. On va voir aussi si Émilie Le Sartérien pourrait atterrir au PQ, comme le dit Mario Dumont hier dans le Journal de Montréal.
Ça risque d'arriver.
Ben, c'est ça. Mais si elle arrive là, Gabriel Nadeau-Dubois, pas sûr que je vais le voir là? Hey, ça va être fun.
Ça va, on va s'amuser au moins. Nous qui sommes toujours en train de décortiquer, on va avoir du fun.
Mais moi, là, j'entends juste que Luc Lavoie, le gars de centre-droit, trouve que GND, le gars de gauche, est pas mal bon.
Ah, ben c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? Il faut bien le reconnaître. Quelques-uns. Qui est peut-être un des plus grands orateurs de l'histoire du Québec? C'est Pierre Bourgault. Là,
ouais.
Je suis certainement pas indépendantiste, mais il y a des talents qui... Il y a des choix qu'on fait en politique, ça fait partie du débat, mais il y a des talents comme ça qu'il faut les reconnaître puis les admettre.
Et on est fiers. On a une classe politique où il y a des personnes comme Gabriel Nadeau-Dubois, voilà. Il faut le dire. Luc Lavoie, toujours un plaisir.
Salut.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
On vient de traverser la folie Ozempic où tout le monde voulait mettre la main sur une petite fiole d'Ozempic pour perdre quelques kilos en trop. Là, on a vu on a resserré finalement comment on peut prescrire l'Ozempic, puis qu'il y a eu même une pénurie de ce médicament qui normalement est fait pour gérer le diabète, mais qui a des effets secondaires assez intéressants, notamment celui de la perte de poids. Eh ben, il y a la compagnie qui commercialise déjà l'Ozempic, qui va rendre disponible au Canada un médicament qui s'appelle Wegovy, qui est spécifiquement un traitement pour la gestion du poids, et ça dès lundi prochain. On en parle avec Jean-François Desgagnés, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Bonjour, M. Desgagnés.
Bonjour.
Quelle est la différence entre ce nouveau médicament et l'Ozempic?
En fait, c'est la même molécule. Vous savez, c'est le semaglutide. Le produit Ozempic est destiné à être commercialisé pour le traitement du diabète de type 2. Le Wegovy va être distribué pour la gestion de la perte de poids. Mais à la base, c'est le même médicament.
Est-ce qu'il va être plus accessible, le Wegovy, que l'Ozempic?
Ben, on espère, parce qu'écoutez, c'est une bonne nouvelle, parce que les problèmes d'obésité, c'est un enjeu de santé important pour la population. On a eu des grands problèmes d'Ozempic. Aujourd'hui, heureusement, c'est réglé, la situation est réglée, mais une des raisons justement pour lesquelles on a eu des pénuries d'Ozempic, c'est que l'Ozempic était utilisé justement pour le traitement dans un principe de gestion du poids.
Expliquez-moi, je comprends pas tout à fait la mécanique. C'est la même compagnie pharmaceutique qui commercialise et l'Ozempic et maintenant le Wegovy, qui est la même molécule pour exactement les mêmes raisons. Pourquoi une entreprise commercialiserait deux produits sous deux noms différents qui sont sensiblement les mêmes?
Ils ont des enjeux de commercialisation, mais en gros, ce qu'on doit comprendre, ce que les gens doivent comprendre, c'est que la dose prescrite pour la gestion du poids, elle est plus élevée que la dose qu'on donne pour le diabète. Okay. La dose de stabilisation pour un patient diabétique, on parle d'un milligramme. Tandis que pour la perte de poids, on peut utiliser jusqu'à 2,4 milligrammes. Donc, ça prend des stylos, des auto-injecteurs qui sont programmé pour être capable d'administrer ces doses-là, ce qui n'est pas le cas avec l'Ozempic. Donc, traiter, c'est-à-dire assister, donner ça à quelqu'un pour l'assister dans la perte de poids, ben, ça va amener le professionnel à dispenser deux, parfois même trois stylos pour un mois, contrairement au Wegovy où on va donner une boîte et les administrateurs sont prévus pour ça.
Le Wegovy, va arriver maintenant sur le marché auprès des pharmaciens. Quels sont les critères pour y avoir accès?
Écoutez, ce qu'il faut que les gens comprennent, puis dans les dernières semaines, on a vu toutes sortes d'histoires dans les journaux, justement, des gens qui étaient capables d'obtenir une ordonnance d'Ozempic pratiquement sur Internet. Ce médicament-là n'est disponible que sous ordonnance, donc ça doit faire partie d'une prise en charge par un professionnel de la santé, soit une infirmière spécialisée, un médecin. Il doit y avoir également un suivi, parce que faut pas que les gens se fassent d'histoire, c'est pas des médicaments qui sont miraculeux, c'est un outil supplémentaire, mais comprenez-moi bien, très efficace, pour aider les gens dans une démarche de perte de poids. Donc, il y a différents critères, bien entendu, ce que vous citez, là, on va parler d'un certain indice de masse corporelle, mais encore là, comme je vous dis, c'est un peu, quand je vous parle d'une prise en charge, c'est qu'il n'y a pas uniquement, il ne faut pas se fier uniquement au poids d'une personne, il faut regarder également tous les facteurs de risque qui sont autour, donc si la personne fait déjà du diabète ou de l'hypertension, ou a des histoires familiales de problèmes cardiaques, donc à ce moment-là, on va probablement avoir une attitude plus agressive là, pour vouloir l'aider dans un processus de perte de poids.
On a vu les compagnies d'assurance refuser de rembourser l'Ozempic là, il y a quelques mois. Est-ce que ça va être la même chose pour le Wegovy ou est-ce qu'on recommence le processus à zéro puis ils vont trouver que trop de monde prenne ça pas pour les bonnes raisons puis on va plus le payer?
Écoutez, moi je souhaite que les assureurs puissent avoir une ouverture d'esprit. Parce que on sait que l'obésité amène énormément de comorbidités, de problèmes de santé à long terme, et que contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une histoire de volonté. C'est pas parce que tu décides demain matin de dire ben moi je veux perdre 25 kilos que tu vas perdre 25 kilos. Donc moi je souhaite que ce médicament-là soit accessible. Mais malheureusement, vous comprenez, je n'ai pas de, j'ai pas de baguette magique, là. Mais je le souhaite dans une situation comme ça parce que vous comprenez, moi, j'ai 30 ans de pratique, puis c'est dans les premières fois, là, où on a des traitements qui sont vraiment efficaces et qui, en plus d'aider à la perte de poids, ont démontré vraiment une efficacité pour prévenir un risque cardiaque. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant.
Monsieur Degagné, avant de vous laisser, je me pose la question, là, on est au mois de mai, là, début mai, on va commercialiser ça dès lundi. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de préparer ce qu'on appelle leur beach body, là, tu sais. Ils ont un bourrelet de trop, deux de trop, un petit dos rond, un petit ventre pas plat, qui se disent, ben, il me reste un mois et demi avant que j'ai à rentrer dans mon maillot de bain. Est-ce que vous craignez une ruée vers ce nouveau médicament-là sous de fausses représentations, notamment auprès des médecins, pour soutirer une ordonnance et ainsi finalement nuire à la raison réelle de sa commercialisation?
Écoutez, tout le phénomène de la pénurie d'Ozempic et de justement, je vais réutiliser vos mots, la ruée vers ce produit-là, c'est quelque chose qui est très préoccupant. Tout l'aspect des influenceurs, des réseaux sociaux, où on banalise l'utilisation d'un médicament. Ça demeure un médicament qu'on s'injecte. Ça demeure un produit qui peut y avoir des effets indésirables. Oui. Et c'est un médicament qui va nécessiter un suivi. Pas plus tard que cette semaine, je voyais une publicité sur Instagram où quelqu'un disait « J'ai décidé de me prendre en main. Je me suis fait prescrire par un site internet de l'Ozempic. C'est arrivé au bout d'une semaine. » Moi, je trouve ça ni plus ni moins que
scandaleux. J'ai vu la même publicité que vous. Puis la question que je me posais, M. Degagné, c'est devrait-on avoir une légalisation? Tu sais, on peut pas faire de publicité sur, par exemple, le tabac. On n'a plus le droit de faire de publicité sur le tabac. Non. Pourquoi faire des publicités sur les médicaments? Il me semble que ceux qui savent quel médicament est le bon, c'est bien les médecins et les pharmaciens.
Absolument. Et la loi existe au Canada. C'est une législation de Santé Canada. On ne peut pas publiciser un médicament et dire à quoi ça sert. Sauf que là, on parle de tout le phénomène des réseaux sociaux. Et c'est extrêmement difficile de légiférer là-dessus. D'où l'importance de ce que vous faites justement dans les médias généralistes où il faut amener les professionnels de la santé pour dire aux gens de faire attention puis d'être prudent et dans toutes les situations de se référer vers un professionnel de la santé.
Jean-François Degagné, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Avec grand plaisir.
Au revoir.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
J'en ai parlé tantôt, mais le documentaire « La piqûre de la minceur » qui traite justement de l'Ozempic, de la situation actuelle, c'est vraiment pertinent. Puis dans le documentaire, il y a un homme qui, lui, a décidé un peu de documenter son parcours sur les réseaux sociaux. Puis il recevait toutes sortes de commentaires de gens qui disaient « Ah, c'est quoi ta dose? T'en prends combien? Parce que moi aussi, j'aimerais ça perdre du poids. » Et lui, il a besoin de marteler le message « Non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. » Il faut vraiment être suivi par son médecin. Il faut suivre les recommandations de notre médecin. Et justement, on en parlait avec le pharmacien dans l'entrevue de Yasmine. Il y a beaucoup de banalisation de l'Ozempic sur les réseaux sociaux. Donc, c'est à faire attention. Puis je recommande donc ce documentaire-là, La piqûre de la minceur, qui est disponible sur Crave. On va poursuivre l'épisode de Yasmine dans les prochaines minutes. On va revenir, entre autres, sur le campement à McGill. Et un petit peu plus tard, on fait un suivi de dossier. On y avait parlé il y a deux semaines, Nima Machouf, elle s'apprêtait à partir pour Istanbul. Bien, on va savoir comment leur mission s'est passée, puisque Yasmine lui parle en fin d'épisode. Donc, je vous invite à rester avec nous. Cube.ca, l'application Cube aussi, ou sinon la chaîne télé si vous êtes à la maison. Puis, en début de semaine, toujours cocasse un peu là, cette nouvelle-là quand ça sort au printemps. Le Petit Larousse a dévoilé les nouveaux mots qui vont être intégrés au dictionnaire dans la prochaine édition, édition 2025, qui sort le 22 mai prochain. 150 nouveaux mots. Et le sport est quand même à l'honneur cette année. Bon, année olympique, on se dit. On retrouve maintenant dans le dictionnaire ultra-trail, trottinettiste, skate park. Dans le dictionnaire, on précise quand même que si on veut éviter l'anglicisme, ben on nous recommande planchodrome ou parc à planche. On va retrouver aussi beaucoup de termes qui sont reliés à l'environnement comme fast fashion, qui fait son entrée dans le dictionnaire, éco-geste, zéro déchet, agro-toxique, détox digital. D'ailleurs, on expliquait un peu comment on fait pour choisir les nouveaux mots qui entrent dans le dictionnaire. Et il faut que ce soit des mots qui sont attestés à l'oral et à l'écrit, autant par les jeunes que par les moins jeunes. Et il faut que ce soit un mot qui a de l'avenir et qui est représentatif d'un mouvement, d'une innovation ou d'une inquiétude. Bref, c'est Rémi Villemur qui veut revenir là-dessus dans sa chronique avec Sophie Durocher, parce que plusieurs des mots qui ont été ajoutés puis que je vous ai nommés, ce sont des anglicismes. Donc, qu'est-ce qu'on doit en penser? Rémi va en parler avec Sophie qui commence son épisode dès 15h. Et Sophie va recevoir aussi Marc Brunet, qui est l'auteur de la série Splendeur et Influence. Sûrement que vous en avez entendu parler. C'est une nouvelle série qui parodie le milieu des réseaux sociaux, le milieu de la télé-réalité. Tu sais, la quête de vouloir être célèbre, de devenir une vedette. Et la distribution de la série est vraiment hallucinante. Anne Dorval, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, Mathieu Dufault, Pascal Deblois. Donc, ça va être une entrevue, je pense, très, très intéressante de parler avec l'auteur. Je vous invite à rester avec nous. Comme je vous disais, Cube.ca, l'application Cube, c'est la meilleure façon de rester connecté avec nous.
Pour une analyse franche et convaincante, Yasmine Abdel Fadel. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN. À LCN.
Et on retrouve Yasmine dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine.
Bonjour Véronique.
Alors François Legault demande aux policiers de démanteler le campement pro-palestinien. Est-ce que tu as trouvé ça surprenant?
J'ai trouvé ça surprenant parce que il y a ce principe qu'on appelle l'insularité de la police, où le politique n'a pas à dire à la police quoi faire ou ne pas faire, ne peut pas donner d'ordre à la police. La police est insulaire, est indépendante, est autonome et ne répond pas aux pressions politiques. Donc, j'ai trouvé ça bien particulier que François Legault prenne la parole puis dise aux polices ben, qu'ils aillent démanteler. Mm-hmm. Qu'ils disent à la police, moi, je m'attends à ce que la police fasse son travail. Ça, c'est une chose. De dire, la police doit aller démanteler, ça peut être, sembler comme un ordre. C'est un peu particulier qu'un premier ministre, finalement, s'engage dans ce genre de narratif, de discours, d'éléments de langage. Je comprends que la situation est tendue, qu'on veut se débarrasser de cette tension-là. C'est tout de même important de respecter ces principes-là de l'état de droit où le politique ne donne pas d'ordre à la police et aux forces policières.
Et tu dis que c'est tendu. Notamment, là, on a vu apparaître une contre-manifestation devant le campus pour exiger que l'université applique ses politiques, s'oppose à la haine des Juifs. Là, on parle d'une escalade de la violence.
Je trouve ça tellement dommage de voir les images que l'on voit d'aujourd'hui, mais aussi depuis quelques jours, parce que particulièrement tout à l'heure, je regardais les images, là, puis Yves Poirier est sur le terrain entre les manifestants pro-palestiniens devant les manifestants pro-israéliens. Puis les deux, qu'est-ce qu'ils cherchent? La paix.
Ah, oui.
Les deux cherchent à ce que leur peuple soit et vive en sécurité et en paix. En fait, ils ont plus de choses en commun qu'ils ont de différences entre eux. Les deux veulent que les massacres arrêtent, tant les massacres du 7 octobre que les massacres qu'il y a actuellement à Gaza. Les deux veulent juste vivre sans avoir peur d'être tués le lendemain. Les deux veulent vivre dans la sécurité alimentaire, la sécurité, l'intégrité physique. Ils veulent vivre en paix, mais ils ont plus en commun, puis ils se regardent comme si c'était des adversaires. Ce ne sont pas des adversaires. Moi, j'aurais voulu voir ces deux groupes-là mélanger, puis crier ensemble qu'il faut que tout ça s'arrête de part et d'autre, et que ni le Hamas, ni Netanyahou ne représentent ce qu'ils pensent, qu'ils veulent, leurs ambitions et leurs aspirations pour leur peuple.
C'est bien dit. Et as-tu l'impression, Yves nous disait tantôt, je ne crois pas que dans les prochaines heures, le SPVM va le démanteler. Toi, est-ce que tu as l'impression qu'on devrait attendre encore un peu, là?
Il n'y a pas de violence. C'est une manifestation. Il n'y a pas de violence. Il y a peut-être des slogans, mais on ne voit pas ici qu'il y a des échauffourées. On n'est pas en train de détruire une propriété. Il y a une manifestation. Le droit à la manifestation est protégé par nos constitutions. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas tolérer ça ad vitam aeternam. Là. On ne peut pas continuer à avoir un campement sur l'Université McGill éternellement. Mais pour le moment, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'échauffourée, qu'il n'y a pas de, qu'on brise pas de propriété, je pense qu'on ne devrait pas mettre de l'huile sur le feu et d'attendre, voir si le mouvement va s'essouffler et prendre ça une journée à la fois. Puis moi, je suis persuadée que les policiers, ils ont tout le talent, les compétences pour juger la situation et déterminer si c'est le temps de les faire décamper ou si ben il va falloir les tolérer. Puis une manifestation, ben oui, ça dérange, ben oui, on n'aime pas ça, ben oui, ça fait changer nos habitudes, mais ça sert exactement à ça.
À la jeunesse. Nouveau sondage à Bacchus Data, les conservateurs mènent toujours avec 21 points, donc on voit qu'il n'y a eu aucun changement depuis l'annonce du dernier budget.
Hey, c'est le striptease qui a le moins servi à quelque chose, hein, celui de Justin Trudeau et de son gouvernement. Vraiment, là, un striptease absolument inutile, parce qu'il le fait reculer, il le fait même pas avancer, ce striptease-là. C'est assez particulier. 21%, c'est majeur. C'est le 99e et 100e sondage d'affilée qui donne Pierre Poilievre en avance sur les libéraux. Finalement, on voit que les mesures annoncées dans le budget n'ont pas percolé dans la mémoire collective. On voit que l'usure du pouvoir puis les politiques, notamment en matière de finances publiques, qui sont très impopulaires au Canada, ont beaucoup plus marqué les Canadiens que les différentes mesures, que ce soit l'assurance dentaire, l'assurance médicaments et toutes les autres ingérences dans les compétences provinciales. Je serais découragée si j'étais dans l'équipe Trudeau parce que visiblement, il n'y a plus rien qui ne fonctionne. Il n'y a plus rien, même saupoudrer des milliards, là, puis faire pleuvoir des milliards et des millions partout à travers le pays, ça ne fait sourciller personne. Et essayer de changer de tactique, il faut croire que les Canadiens sont beaucoup plus imperméables au charme de l'argent et des milliards que Justin Trudeau le croyait.
Yasmine, c'est toujours un plaisir. À demain.
Pareillement. Bye-bye.
Yasmine Abdel-Fadel.
Il était sur place aujourd'hui pour faire face à la contre-manifestation qui s'est organisée au campus McGill. On parle avec Niall Clapham-Ricardo, membre de Voix juive indépendante. Bonjour.
Bonjour, je suis encore à la contre-manifestation.
Comment ça se passe sur le terrain?
Ça se passe bien. Écoutez, nous, on est sereins. On est sereins parce qu'on sait qu'on est du bon côté de l'histoire. Et puis, il n'y a pas eu d'affrontement. Tout s'est passé relativement dans le calme. C'est sûr qu'il y avait certaines personnes que, à cause de notre présence juive, en solidarité avec les Palestiniens, n'étaient pas très contents de tout ça. Mais nous, on était contents d'être là et de pouvoir être solidaires de nos sœurs et frères palestiniens.
Vous êtes juif, vous le dites vous-même, vous êtes de confession juive, mais vous êtes avec les pro-palestiniens. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi?
Parce que je pense que c'est très important de faire la distinction entre le sionisme et le judaïsme. Le sionisme et le judaïsme, ce ne sont pas les mêmes choses. D'ailleurs, ça n'a jamais été le cas. Il y a toujours une opposition au sein des communautés juives au sionisme dès son inception, là, au début du 20e siècle. Aujourd'hui, c'est très, très important pour nous, dans notre tradition juive. On se fait même un devoir de venir s'opposer aux politiques qu'on voit en ce moment à Gaza. Le massacre, les fosses communes, l'attaque contre les hôpitaux. En tout cas, j'en passe parce que tout le monde l'a vu, il le connaît. Et ceux qui ne veulent pas le voir, ben, ils sont un peu dans le déni en ce moment. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas, dans notre fière tradition juive, ne pas être aux côtés de nos amis et alliés palestiniens en ce moment.
Les personnes qui font partie de la contre-manifestation aujourd'hui, évidemment, réclament de la libération des otages, évidemment, dénoncent ce qui s'est passé le 7 octobre, évidemment, cette attaque barbare. En quoi ce qui est dénoncé par la contre-manifestation est en opposition avec ce que propose votre organisation?
C'est un peu comme si la contre-manifestation était dans un univers parallèle. Je veux dire, en ce moment, il y a un bombardement massif de Gaza, presque 40 000 morts. On parle de maladies qui sont en train d'être transmises. Là, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle aujourd'hui, mais à cause des corps qui sont encore sous les décombres, on bombarde une population civile, là, parce que la bande de Gaza, c'est la population, c'est l'endroit au monde le plus peuplé au niveau de la densité. Et on bombarde cet endroit-là depuis 6 mois. Les otages ne sont pas revenus. Donc, il faut poser cette question-là aux contre-manifestants. S'ils veulent que les otages reviennent, bah, qu'on fasse la paix, qu'on se mette d'accord pour un véritable paix. Et je pense que ce que ces gens-là veulent pas, c'est une égalité pour le peuple palestinien. C'est aussi simple que ça. Parce que si on parle seulement des otages et on ne parle pas de tous les enfants, de toutes les femmes, il y a des femmes qui sont enceintes à Gaza en ce moment, qui doivent accoucher dans des conditions atroces. Puis moi, j'aimerais qu'on parle plus de ça. Si on veut parler des otages, pas de problème, mais parlons de tout le monde.
Est-ce que vous êtes perçu par votre communauté confessionnelle comme étant un traître à la cause israélienne?
J'ai jamais été fidèle à la cause israélienne. Je suis fidèle à la cause juive. Et la cause juive, c'est la cause de la justice. En tout cas, pour moi, c'est dans ça qu'on m'a élevé. Puis c'est la cause à laquelle je porte, c'est la cause à laquelle j'appartiens. Si certains me voient comme un traître, il y a des milliers de plus qui me voient comme quelqu'un qui, avec lesquels ils peuvent s'identifier. Et j'espère, et je le sais en fait, parce qu'il y a beaucoup de jeunes juifs qui sont venus me parler dans les derniers mois, qui me voient comme un début de changement au niveau de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, que notre parole, la voix juive indépendante, porte autant chez les jeunes juifs ici et à travers le Canada. C'est justement parce que, en tant que communauté juive, beaucoup de nos jeunes se disent « je ne peux pas aller à une manifestation pour Black Lives Matter, mettre mon genou à terre et le lendemain aller célébrer le bombardement de Gaza. C'est intenable, c'est insoutenable. » Donc, pour ces gens-là, je ne pense pas que je sois un traître.
Monsieur Ricardo, la question qui vient me chercher, c'est que on dit depuis plusieurs jours, on dit que dans ces campements-là sur l'université McGill, il y a des discours qui sont antisémites, il y a des discours qui sont portés pour l'annihilation d'Israël et du peuple juif. Vous êtes à l'intérieur, vous êtes juif. Dites-nous la vérité. Ah, je pense.
Ah, bon. Oui, je vous ai perdu deux secondes. Excusez-moi.
Je vous disais, on nous dit que dans ce campement-là, c'est finalement un nid, hein, discours haineux, discours antisémite, on parle d'annihilation d'Israël, de nier le droit d'Israël d'exister. Vous êtes juif, vous êtes à l'intérieur des campements. Dites-nous la vérité qui se passe à l'intérieur.
La vérité, c'est que la première journée du campement, il y a eu un souper de Shabbat pour la Pâque juive. Donc, pour moi, les discours antisémites, on a parlé d'une vidéo, on l'a jamais vu, on a parlé de certains slogans. En tout cas, moi, je suis juif et je sais qu'il y a plein de juifs ici. D'ailleurs, les organisateurs de ce campement étaient juifs et juives, ils étaient des associations de Voix juive indépendante, McGill et Concordia, qui participaient à l'organisation de ce campement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y avait un atelier ce matin avant la contre-manifestation à comment être un bon allié de la cause juive et comment justement faire la distinction entre judaïsme et antisémitisme. Et si je peux me permettre, ceux qui viennent me chercher, moi, c'est que dans les médias, excusez-moi là, je suis dehors, donc il y a des insectes qui posent sur moi, mais ce qui vient me chercher, c'est cette idée que on doit toujours défendre Israël si on est juif. Si on est québécois, est-ce qu'on devrait toujours défendre la CAQ? Est-ce qu'on devrait toujours défendre les positions politiques des partis au pouvoir? Non. Et pour moi, l'affaire là-dedans, c'est que il faut distinguer le judaïsme et sionisme et antisémitisme et critique légitime d'Israël.
Est-ce que les personnes devant vous avec le drapeau israélien, est-ce que vous les qualifiez de pro-Netanyahou ou est-ce que ce sont juste des nationalistes israéliens qui veulent qu'Israël puisse vivre en paix et en sécurité?
Moi, je ne les qualifie pas. C'est eux qui me qualifient de beaucoup de choses. Moi, je ne les qualifie pas. Je ne suis pas là pour qualifier ces gens. Cependant, ce que je dirais, c'est que, comme j'ai dit avant, j'ai du mal à m'expliquer. Aujourd'hui, après tout ce qu'on a vu, des meurtres de filles, des meurtres de personnes humanitaires, des pris par cible, des massacres infâmes, s'ils sont vraiment pour Israël et pour l'existence de l'État israélien, s'ils veulent vraiment qu'Israël soit le meilleur État possible, pourquoi ils soutiennent ça? Pourquoi ils soutiennent des choses qu'on n'accepterait jamais? Imaginez-vous si les Russes avaient fait ça en Ukraine, d'ailleurs toute ma solidarité avec la cause ukrainienne, s'ils avaient fait ça en Ukraine, on n'aurait pas arrêté de parler de ça pendant des mois, alors qu'on a parlé pendant une semaine, il y a eu quelques condamnations, puis on est passé à autre chose. C'est inacceptable ce qui se passe à Gaza en ce moment. Et si, moi je ne suis pas du côté pro-israélien, comme vous le savez très bien, mais si on est du côté pro-israélien, pourquoi on ne critique pas? C'est ça la question que je leur pose.
Je vais vous poser une question de manière très ouverte et de manière très franche. Il y a une initiative avec un écran géant qui a été déposé devant votre campement où on reprend les images du 7 octobre. Est-ce que pour vous, le 7 octobre, ce sont des actes terroristes. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste et est-ce que vous soutenez les actions qui ont été posées le 7 octobre?
Non, bien sûr que je soutiens pas les actions qui ont été posées par la Hamas et bien sûr que je soutiens pas les actions contre des populations civiles. Le mot terroriste, on l'utilise contre la Hamas, mais je me demande ce qui est fait, par exemple, par le gouvernement israélien aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait le qualifier de terroriste qu'on est en train de faire un bombardement indiscriminé là de populations civiles, qu'on est en train de s'attaquer à des hôpitaux? Pour moi, c'est sûr que je m'oppose au Hamas, je me suis toujours opposé à toute meurtre de population civile, mais vous savez aussi bien que moi que le conflit ou la guerre qu'il y a eu en Palestine en ce moment, ça commence pas le 7 octobre. Là. Ça fait des décennies qu'on est là-dedans, ça fait presque 100 ans que le peuple palestinien est opprimé, et puis on parle du 7 octobre comme si le 7 octobre était le début de tout. Le 7 octobre, c'est pas le début de tout. Moi, je veux la paix, je suis pro-paix, et ce que je veux, c'est la libération pour le peuple juif, et je veux la libération pour le peuple palestinien aussi. Et ça veut dire l'arrêt de l'embargo à Gaza, ça veut dire l'arrêt de l'apartheid, et ça veut dire une véritable libération pour les deux peuples. Les deux peuples peuvent vivre ensemble sur l'espace qu'on appelle Israël et Palestine.
Est-ce que vous pensez encore à la solution à deux États?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème avec la solution à deux États, c'est la colonisation massive qu'on a vue en Cisjordanie. D'ailleurs, dans les derniers mois, on a eu une colonisation de encore plus massive construction. On a eu des ventes ici à Montréal de terres illégales au niveau du droit international en Cisjordanie. Donc, la solution à deux États, je pense que dans les faits, la solution à deux États, malheureusement, elle est impossible. Pas parce que les Palestiniens ne le veulent pas nécessairement et pas parce qu'il y a certains Israéliens qui ne le veulent pas. Je sais que des deux côtés, il y a des personnes qui le veulent. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec les politiques que nous, on a soutenues depuis des décennies, depuis la fin des accords de Oslo, la réalité sur le terrain fait en sorte que il y a des grands problèmes avec ça. L'autre affaire que je voudrais dire au niveau de la solution de deux États, c'est que toutes les réfugiés, toutes les familles palestiniennes qui sont parties pendant la Nakba, qui ont dû quitter la Palestine historique. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes? Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont entassées, par exemple, dans des cas de réfugiés, comme c'est le cas d'ailleurs de Ruba Ghazal, qui est d'origine libanaise, palestinienne, comme c'est le cas de beaucoup de personnes au Jordan? Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? Ces personnes-là, ils n'ont pas le droit de retourner sur la terre de leurs ancêtres? Non, c'est insoutenable.
Mais monsieur Ricardo, la question que je me pose, c'est: qu'est-ce que McGill peut faire à ça si toutes les nations n'ont pas réussi à régler ce conflit-là? Là, aujourd'hui, ce sont McGill, d'autres étudiantes, la ville qui est bloquée. Qu'est-ce que vous demandez à McGill et qu'est-ce que McGill peut faire pour contribuer à cette paix-là?
On peut tous contribuer à cette paix d'une certaine façon. La chose qu'on ne peut pas faire pour contribuer à la paix, c'est avoir, par exemple, des intérêts financiers dans des compagnies qui profitent directement de la violence faite aux Palestiniens en ce moment. Vous savez que, et peut-être beaucoup de Québécois et Québécoises ne le savent pas, mais McGill a, par exemple, des intérêts dans Lockheed Martin. C'est quand même incroyable. Dans une compagnie d'armement, est-ce qu'on veut que nos universités soient des universités où on porte le meilleur de nous, c'est-à-dire la prochaine génération, pour la justice, pour amener une société plus démocratique, plus libre pour tout le monde, ou est-ce qu'on veut des universités qui, au final, c'est juste des entreprises qui profitent aussi, comme toutes les entreprises en bourse là, du massacre, ou par exemple, ils n'ont pas d'éthique, on va placer là où on fait plus d'argent, et c'est sûr que l'argent fait, la guerre fait de l'argent. Donc, c'est ça qu'on demande à McGill. C'est quand même une demande assez simple. C'est de demander l'argent que vous avez dans ces compagnies-là, retirez-le et investissez-le dans de manière plus éthique. Si les individus aujourd'hui peuvent le faire dans leur portfolio, pourquoi McGill ne pourrait pas le faire?
Qu'est-ce qu'on vous répond lorsque vous faites cette demande-là?
Moi, j'ai pas fait la demande directement, c'est les organisateurs du campement, mais ce que je comprends, c'est que on veut pas de dialogue. On a dit d'ailleurs après deux jours que le campement était légal, puis qu'on voulait le démantèlement du campement. Ensuite, on a parlé d'une vidéo qui circulait. En tout cas, on a allumé plein de feux de paille au niveau de l'antisémitisme pour essayer de justifier la fin de non-recevoir de l'université, de même jaser de ça.
Je pense que, par exemple, des universités comme l'Université Brown aux États-Unis ont proposé un vote, là. Ils ont proposé un vote au niveau du désinvestissement. Pourquoi McGill ne ferait pas ça?
Avant de vous laisser aller, Monsieur Ricardo, une question qui fait sourciller bien des chroniqueurs, des organisateurs, en fait, des personnes qui surveillent et qui regardent ça. Pourquoi tout le monde a le visage couvert?
Ah, ben, il y a certaines personnes qui, malheureusement, à cause de la répression, par exemple, il y a, même moi, je j'ai jamais le visage couvert, vous me voyez partout, vous faites une recherche avec mon nom, vous voyez très bien mes positions politiques, mais moi, je peux me le permettre de le faire parce que je suis pas dans une situation où, j'ai à craindre des représailles. Vous savez qu'il y a un membre de Voix juive indépendante à Québec qui a été exclu de sa synagogue. Il a jamais annoncé un mot au sein de sa synagogue au niveau de la politique israélienne, mais on l'a exclu pour des posts sur les médias sociaux. Je veux dire, c'est inacceptable aujourd'hui que des gens qui se tiennent contre un génocide soient doxed, là, comme on dit en anglais, le doxing. C'est ouais. Inacceptable. Donc, je pense qu'il faut un peu renverser cette question-là et se demander pourquoi on permet aux gens de faire du doxing sur des personnes qui demandent juste qu'on arrête le meurtre d'enfants, de femmes et d'hommes à Gaza en ce moment.
Vous avez peur qu'on puisse les identifier et finalement faire des pressions, notamment sur leurs employeurs et les mettre de côté, les ostraciser dans la société comme étant des méchants pro-palestiniens, pro-Hamas. Nial Clapham Ricardo, membre de Voix juive indépendante, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel.
Il y a du monde qui a fait de l'argent durant la pandémie, puis pas, je parle pas des pharmaceutiques, et non, je parle pas de ceux qui vendaient des masques, et non, je parle pas de ceux qui ont fait les vaccins, et je parle pas de ceux, les Lysol et les antibactériens de ce monde, je parle de ces personnes qui ont vendu des faux passeports vaccinaux.
Et c'est un cas de figure qui est probablement le plus important, hein, des fraudes vaccinales qui se sont faites au Québec durant la pandémie, parce que oui, les tribunaux sont encore à l'ouvrage pour certaines personnes qui ont fait des méfaits à cette époque-là. Puis c'est le cas de Adams Diwa, un jeune homme de 24 ans. On s'est rendu compte qu'il a vendu des faux passeports vaccinaux. Bon. Ça s'était déjà vu à cette époque-là. On avait vu des gens qui réussissaient à rentrer dans un système pour donner une autorisation à leurs amis qui n'étaient pas vaccinés, par exemple. Mais là, on parle de quelqu'un qui a réussi là, de créer des fausses données, là, des faux passeports vaccinaux. 1250 faux vaccins qui ont été pris pour 630 personnes en tout et partout qui ont pu avoir un faux passeport vaccinal. Parce que M. Diwa avait été employé, lui, par le CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Et c'est dans le cadre de ses fonctions-là, lui avait accès aux données vaccinales dans le registre de vaccination Québec. Puis sa seule et unique tâche, c'était juste d'entrer les données vaccinales là-dedans, un peu partout. Mais il a fait quand même une espèce de stratagème, là, si on veut. Il prenait un vrai rendez-vous dans le système pour quelqu'un. Premier rendez-vous, 28 jours plus tard, un deuxième rendez-vous d'une deuxième dose. Puis là, il écrivait, telle personne s'est fait vacciner à tel endroit, à telle heure. Puis ça passait crème. T'es capable de faire ça, mais en le monnayant. On se comprend, là.
Il s'est fait combien d'argent?
150 000 $ de profit, là. C'est ça qui est impressionnant dans cette histoire-là. C'est qu'il a réussi, puis là, jusqu'à maintenant, à échapper à la justice avec 150 000 $
Mais là, tu me disais combien de personnes à qui il a créé des...
630 personnes.
Écoute,
on
je vais
dit,
faire là. Des mathématiques, évidemment, je suis ma calculatrice.
Ouais, il y a du monde qui ont dû payer ça cher quand même, fait là. Je sais pas si c'est le même tarif pour tout le monde.
150 000 divisé par 630?
Ouais.
Hey, en moyenne, 238$ pour avoir ton passeport vaccinal. Il me semble que le monde, là, ils ont payé cher pour pas se faire vacciner et se faire protéger.
Ah ben, écoute, à cette époque-là, là, rappelons-nous, là, j'adore dire à cette époque-là pour quelque
à
chose
cette époque-là,
qui
dans le temps.
Mais ça nous semble tellement loin.
Ouais, mais on
je pense
dire
qu'on
maintenant.
Peut le dire maintenant, dans le temps. Il y avait des gens là, qui avaient, ils voulaient absolument avoir un passeport vaccinal comme ça. Ah, sans se faire vacciner, parce que pour eux, pour peu importe la raison, la croyance ou la théorie complotiste qui suivait, ben c'était inacceptable d'aller se faire vacciner. Mais voulait aussi aller pouvoir aller se rendre au restaurant, faire des activités, tout ce qui avait besoin de ce fameux passeport vaccinal-là. Pour eux, 238$, ça devait pas être grand-chose.
Mais ça veut dire qu'on les a identifiés, ces personnes-là.
C'est là que c'est pas clair pour l'instant, parce que là, on a des données de ce procès là, de M. Diwa dans cette histoire-là, qui a plaidé coupable, lui, les accusations. Là, c'est abus de confiance, fabrication de faux qui lui tombe dessus pour ça. Mais après ça, est-ce que toutes les personnes qui ont payé pour ça vont être poursuivies par la suite? C'est une bonne question. J'ai pas les informations pour l'instant. Et c'est surtout l'argent que lui a reçu qu'il faut aller saisir. Là, on parle de près de 100 000 $ déjà qui ont été retracés dans ses comptes bancaires, qu'on est allé geler. Pour l'instant, après ça, 30 400 $ comptants qu'il y avait chez lui quand on fait une perquisition de son domicile à Terrebonne.
Je pense pas qu'il recevait ça avec un reçu là, tu sais, d'impôt TPS TVQ non plus.
Non, j'imagine que non.
Il devait recevoir
plus.
Beaucoup de cash.
Ben c'est ça. Il devait souvent le recevoir comme ça en espèces, là, 30 000 piastres cash. Il y a pas grand monde qui ont ça, qui traîne chez eux. Bref, on voit qu'il y a des gens qui se sont quand même fait là, beaucoup de profits sur le dos là, de la pandémie puis du climat qui régnait autour de ça. Puis c'était pas la première fois, puis peut-être pas la dernière non plus qu'on voit des cas de figure comme ceux-là. Je le dis, il y avait une dame entre autres, là, je pense, plus dans l'est du Québec, qui avait fait ça, qui prenait des faux rendez-vous ou qui faisait, là, je pense, dans son cas, créait justement des rendez-vous puis des rendez-vous puis des rendez-vous juste dans le but d'occuper les plages horaires de vaccination, mais il n'y avait personne qui s'y rendait finalement. C'est juste comme embourber le système le plus possible pour être sûr qu'il y a le moins de gens possible qui recevaient leur vaccin. Je tiens à rappeler que pour les mouvements anti-vax, puis je le vois toutes les semaines, Yasmine, c'est imminent, hein? Le fameux choc que tout le monde va faire, commencer à mourir en masse de malaise causé par ce fameux vaccin. On attend encore la fameuse dépopulation. Je suis vacciné 3 fois, c'est toujours pas arrivé.
4 fois pour ma part. Oh. Alors que j'étais enceinte, t'imagines? Je suis tellement une mère indigne.
Oh.
Mère indigne qui s'est vaccinée alors qu'elle portait un bébé.
Il y a une puce dans le sang de ton enfant qui va pouvoir être contrôlée par l'état profond dans pas long, Yasmine. Fais quelle mère indigne.
Vraiment, tous les jours, je me dis ça. Qu'est-ce que j'ai fait à mon enfant? Surtout quand il dort pas la nuit, j'étais comme ça à cause du vaccin. Alexandre Moranville-Ouellette, merci beaucoup.
Salut.
C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube. Cube.